15 ans plus tard, dans la chambre 623 du palace de Verbier, Jean-Bénédicte interrompit le récit de l'Ève. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettres ? » demanda-t-il. Anastasia répéta les explications données à l'Ève lorsqu'ils s'étaient enfin retrouvés une année plus tôt, après les obsèques d'Abel et Besner. « J'avais écrit deux lettres, » dit-elle. « L'une à l'intention de l'Ève, pour lui dire mon amour, et l'autre pour Macaire, afin de lui faire comprendre que je n'éprouvais pas de sentiment pour lui. Mais le père de l'Ève à qui j'avais confié ces lettres les a trafiquées. Il a découpé les deux prénoms et les a inversés, » ajouta l'Ève. Je me suis retrouvé avec une lettre de rupture et j'ai pensé qu'Anastasia voulait faire sa vie avec Macaire. Le lendemain soir, pendant le grand bal, j'ai vu Anastasia et Macaire s'embrasser, ce qui, pour moi, confirmait tout. « C'est Macaire qui m'a embrassé, » protesta Anastasia, qui éprouvait encore le besoin de se défendre 15 ans après les faits. « Je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas le souvenir que tu t'en sois offusqué, » lui reprocha l'Ève. « Allons, les amoureux, » intervint Jean-Bénédicte. « Ne vous chamaillez pas. Je veux savoir la suite. Et surtout pourquoi ton père, l'Ève, aurait interverti les noms sur ses lettres pour te faire douter de l'amour d'Anastasia. » « Parce qu'il était gravement malade et qu'il ne voulait pas mourir seul. » 15 ans plus tôt, dans la salle de bal. Après avoir vu Anastasia et Macaire s'embrasser, l'Ève avait voulu se venger en faisant de même avec Petra. Anastasia, bouleversée par la découverte de sa nouvelle conquête, avait quitté les lieux précipitamment. Au milieu de cette foule joyeuse, l'Ève, auquel Petra était étroitement enlacée, se sentait défaillir. Revoir Anastasia et surtout être témoin de ce baiser entre Macaire et elle l'avait ébranlée. C'était une chose de le savoir après les lettres qu'il avait lues, c'en était une autre de les voir ensemble. L'Ève quitta à son tour la salle de bal. Il n'était pas à sa place parmi ses banquiers. Il songea que son père avait raison. La banque l'avait changé. Il avait envie de redevenir un employé de l'hôtel, vivre ici à nouveau, dans cette bulle, ne plus jamais quitter le palace. Il admit que finalement la seule personne qui avait toujours voulu son bien était son père. Au sortir de la salle de bal, il tomba sur M. Rose. Celui-ci était visiblement au courant de ce qui s'était passé entre Sol et son fils. « Lève, » dit M. Rose, « il faut que je te parle. C'est à propos de ton père. Je sais, il a voulu bien faire et m'aider à travers son personnage de Tarnogol. Ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Lève, ton père a un cancer. » Lève blêmit. Son père ne lui avait pas raconté d'histoire cette fois. « Alors c'était pas une invention de sa part ?» murmura-t-il. « Il va mourir, » confia M. Rose. « Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé avant ?»«
Il ne voulait pas t'inquiéter. Il pensait qu'il s'en sortirait. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Il va mourir et il n'a plus que toi. Il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. »
Lève eut soudain envie de retrouver son père, de le serrer contre lui, de ne plus perdre une seconde du temps qui leur restait ensemble. En ce soir de bal de la banque Besner, Sol aurait dû se trouver au palace. Mais Lève ne le trouva pas dans son bureau et aucun des employés qui l'interrogea ne l'avait vu. Lève considéra qu'il était sans doute dans son appartement. Il s'y rendit, frappa longuement à la porte, mais personne ne lui ouvrit. La porte n'était pas verrouillée et Lève prit la liberté d'entrer. Mais les lieux étaient déserts. Il appela. Aucune réponse. Son père n'était visiblement pas là. Il décida de vérifier encore dans la chambre à coucher, vide aussi. Mais au lieu de quitter la pièce, Lève eut envie d'entrer dans l'intimité de son père. Il ouvrit la grande armoire murale qui faisait face au lit. Quelle ne fut pas sa surprise. Il y découvrit sur une étagère une série de visages en silicone disposés sur des têtes de mannequins. Les visages des clients qu'il avait servis. En dessous, des objets pêle-mêle servant d'accessoires pour ses personnages. Montres, bijoux, lunettes, cigarettes. Et parmi tout ceci, le fameux livre relié que son père conservait si précieusement et dans lequel il notait toutes ses idées. Lève l'ouvrit et découvrit au fil des pages, sous forme de croquis et d'annotations, tous les clients qu'il avait servis au palace. Son père avait esquissé les visages avant d'en faire des moules, puis des masques en silicone. Lève comprit que ces personnages existaient vraiment. Seul Levovitch avait inscrit leurs histoires personnelles, leurs tics de langage, leurs préférences, et leurs exigences au sein de l'hôtel afin de maintenir la cohérence à chacun de leurs séjours. Lev, passant en revue les visages en silicone, observa longuement celui de Tarnogol. Il était fasciné. Il s'en saisit et s'installa devant la coiffeuse qui trônait dans la pièce, la même où pendant des années, son père s'était transformé pour se fondre incognito au sein du palace. Lev se rendit compte que son père lui avait tout appris. Il connaissait les gestes et les attitudes. Il savait comment transformer sa voix en la faisant porter davantage. Il songea que, depuis une année, il s'était complu lui-même dans l'imposture en se faisant passer pour Lev Romanov. Au fond, il n'avait fait que mettre en pratique ce que son père lui avait appris. Il était un acteur. Ils étaient bien une lignée d'acteurs. Ils étaient les Levovitch. Une moitié de l'armoire servait de penderie pour tous les vêtements des personnages. Lev identifia sans difficulté les habits de Tarnogol et s'en revêtit. Ils étaient doublés d'éléments de tissu et de mousse synthétique de façon à lui donner de la corpulence et voûter sa silhouette. C'était éblouissant. Il appliqua ensuite le visage en silicone sur son propre visage. Le plastique épousa les contours de sa mâchoire, s'adapta à ses yeux et à ses lèvres. Il arrangea les cheveux gris et les épais sourcils. Le résultat était époustouflant. Il était Signor Tarnogol. Il s'entraîna quelques instants à parler et à bouger dans cette nouvelle enveloppe corporelle. Il se rendit compte qu'il pouvait imiter à la perfection le personnage que Sol avait créé sous le nom de Tarnogol. Sa voix, sa façon de bouger, ses tics de langage. Exactement comme son père le lui avait enseigné. Lev comprit que son père l'avait préparé à prendre sa relève. Il comprit également que son père n'était pas qu'un acteur fort doué. Il était un pur dramaturge, l'âme du théâtre personnifié, un immense artiste. Lev, saisissant en Tarnogol, se contempla longuement dans le miroir. Il se sentait fier, d'être un Levovitch. Il voulut alors que son père le voie ainsi. Il voulait lui montrer qu'il était comme lui, qu'il n'était pas différent. Si son père n'était pas ici, c'est qu'il était forcément au palace. Lev retourna là-bas. En quittant l'appartement, il prit soin d'emporter avec lui son bien le plus précieux, qui n'avait pas quitté la poche de son pantalon depuis la veille au soir, la bague de fiançailles de sa mère, dont il avait cru qu'il l'offrirait à Anastasia à l'hôtel des Bergs. De retour au palace, Lev put immédiatement se rendre compte du réalisme de sa nouvelle identité. Les employés n'y virent que du feu et le saluèrent avec déférence. Lev s'amusa à leur témoigner un mépris tarnogolesque. Ce fut l'occasion d'exercer sa voix et son accent, donnant du « Poussez-vous de mon chemin !» à ceux qui lui demandaient « Comment allez-vous » Sous son visage de silicone, Lev était émerveillé. Quelle tête ferait son père en le voyant ainsi? Mais son père était introuvable. Après avoir erré un moment dans le grand hall, Lev sortit sur le perron de l'hôtel pour fumer une cigarette. À ce même instant, Macaire quittait la salle de bal du premier étage, ses actions de la banque dans les mains, et rejoignait le hall du palace. Sans Anastasia, sa soirée était gâchée. Il se sentait triste. Il se sentait seul. Il était prêt à donner tout l'or du monde pour être avec elle. Il avait besoin de prendre l'air et sortit sur le perron. Lev, voyant Macaire passer la porte du palace, il lui jeta un regard furieux avant de se rendre compte que Macaire ne le reconnaissait évidemment pas. « Bonjour, monsieur. » Le salua poliment Macaire en passant à sa hauteur. Lev remarqua que celui-ci avait la mine triste. Il interpella alors, reproduisant la voix et l'accent de Tarnogol. « Ça ne va pas, mon jeune ami !» Macaire se retourna, heureux que quelqu'un remarque qu'il n'allait pas bien. « Histoire de cœur, » répondit-il.
« Ça arrive !»
Macaire fixa son interlocuteur. « Est-ce qu'on se connaît ? » demanda-t-il à Tarnogol.
« Ah, je ne crois pas. »«
Si, vous êtes venu à la banque Ebesner il y a quelques semaines. »
« Vous connaissez cette banque ?» interrogea Tarnogol.
« Si je la connais, » répondit Macaire amusé par cette question.
« Je m'appelle Macaire Ebesner, » dit-il en tendant la main à Tarnogol. « Je suis le nouveau vice-président de la banque Ebesner. »
Ils échangèrent une chaleureuse poignée de main.
« Je m'appelle Signor Tarnogol. Très heureux de vous connaître. Je n'aime pas voir un beau jeune homme comme vous être triste. Y a-t-il quelque chose que j'y puisse faire pour vous ?»
Macaire soupira.
« Ah, si vous pouviez me faire aimer de la femme que j'aime, » dit-il.
« Elle s'appelle Anastasia. Je donnerais n'importe quoi pour être avec elle. » À ces mots, Lev comprit que Macaire ne savait pas qu'il avait été choisi par Anastasia. Il n'avait jamais reçu la lettre d'amour qu'elle lui avait écrite. Anastasia voulait faire sa vie avec lui, mais il n'en savait rien. Et comme elle s'était enfuie de la salle de bal après leur baiser, il devait se sentir éconduit. Lev songea alors qu'il avait l'opportunité de se jouer de Macaire sans imaginer une seconde où tout cela allait mener. Sous les traits de Tarnogol, il lui révéla sur le ton de la confidence
« Je peux vous aider à conquérir cette Anastasia. »
« Comment ?» implora Macaire, visiblement prêt à tout.
« Ça coûte très cher, »
prévint Tarnogol.
« Je ne sais pas si vous avez les moyens. »
Macaire, ne se laissant pas impressionner, agita l'enveloppe qu'il tenait en main. « Vous voyez ceci ? Ce sont des actions de la banque Ebesner. Vous savez combien elles valent, ne serait-ce qu'en dividendes chaque année ? Alors croyez-moi, j'ai de quoi me payer vos services. Combien voulez-vous ?
« Êtes-vous prêt à faire un pacte avec le diable ?»
demanda Tarnogol. Le mot « diable » effraya Macaire, mais il ne se dégonfla pas. « Je suis prêt à tout, » assura-t-il. Et Tarnogol, réagissant du tac au tac, lui dit alors
« Vos actions contre Anastasia. »
Il y eut un silence. Macaire sembla hésiter avant de se reprendre et répondre d'un ton affirmé « J'accepte. Si vous parvenez à me faire aimer d'Anastasia, je vous donne mes actions. Je n'ai que faire de l'argent, monsieur Tarnogol. Tout ce que je veux, c'est l'amour d'Anastasia. » 15 ans plus tard, Lev était presque soulagé de pouvoir révéler le secret qu'il avait porté pendant toutes ces années. Il expliqua à Jean-Bénédicte Hansen. « Je n'avais rien à perdre. Je pensais d'abord juste faire un mauvais canular, avant de me rendre compte que j'étais peut-être en train de réaliser un coup de maître. Récupérer le poste de vice-président de la banque, vous imaginez le pied de nez à Macaire dont je pensais qu'il m'avait pris Anastasia. Et puis, si ça marchait, j'allais devenir, si jeune déjà, infiniment riche. Ce soir-là, je croyais rouler Macaire. En réalité, je me suis roulé moi-même. » 15 ans plus tôt. Macaire entra dans sa chambre du palace, suivi par Tarnogol. « Asseyez-vous, » lui dit-il en lui présentant un fauteuil tandis qu'il s'installait derrière le petit pupitre de la chambre. Il ouvrit un tiroir, sortit du papier et un stylo, et se mit à rédiger un contrat en bonne et due forme. Quelques lignes par lesquelles il cédait ses actions à Signor Tarnogol.
« Ce contrat est valable ?»
s'inquiéta Tarnogol.
« Je ne veux pas d'entourloupe. »
« Ne vous inquiétez pas, » le rassura Macaire. « J'ai étudié le droit à l'université, je sais ce que je fais. Ce contrat est parfaitement valable. » Il mit le document dans le coffre-fort de la chambre, ainsi que ses actions. Puis il dit « Si, comme vous me promettez, j'obtiens grâce à vous l'amour d'Anastasia, je vous rendrai ce contrat signé ainsi que mes actions. »
« Comment être certain que vous respecterez vos engagements ?»
demanda Tarnogol. « Je suis un homme de parole, » dit Macaire. « Vous pouvez me faire confiance. » L'occasion était trop belle, et Lev décida de la saisir. Si ça marchait, c'était le coup du siècle. Il mit la main dans sa poche et, touchant du bout des doigts la bague de sa mère, il dit «
« Retrouvez-moi dans 15 minutes devant les ascenseurs du 3e étage. »
Un quart d'heure plus tard, Macaire trépignait dans le couloir du 3e étage où se trouvait la chambre d'Anastasia. Soudain, une porte dérobée s'ouvrit et Tarnogol apparut.
« Vous êtes le diable !» frissonna Macaire.
« Suivez-moi !»
ordonna Tarnogol, entraînant Macaire dans un couloir de service connu des seuls employés. À l'abri des regards, Tarnogol sortit de sa poche la bague et la mit dans la main de Macaire. Lev eut une hésitation à se séparer de la bague de sa mère. Mais il songea que si son subterfuge échouait, il récupérerait la bague. Et s'il fonctionnait, il aurait de quoi acheter les plus gros diamants jusqu'à la fin de sa vie.
« Offrez cette bague à Anastasia, » dit-il à Macaire. « Demandez-la en mariage, elle acceptera. »
Macaire se précipita jusqu'à la chambre d'Anastasia. Arrivé devant la porte, il resta un instant immobile, sans oser frapper. Derrière la cloison, Anastasia, seule, prostrée dans son lit, pleurait, désespérée. Trompée par Lev qui lui avait préféré Petra, rejetée par sa mère qui ne voulait plus entendre parler d'elle, elle se sentait abandonnée de tous. Une fois le grand week-end terminé, elle n'aurait même plus de logis. Elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir.
Elle en était au point de songer à se jeter par la fenêtre pour mettre fin à tout cela. Soudain, des coups contre sa porte. Elle se leva péniblement pour aller ouvrir. Devant elle, un genou au sol, Macaire lui présentait une bague sertie d'un saphir. « Anastasia von Lacht, voulez-vous m'épouser ? » demanda-t-il. Elle n'hésita presque pas. Ce n'était pas son cœur qui répondit, mais sa peur de finir seule et surtout son besoin de gentillesse, ce besoin viscéral d'être aimée. Elle avait assez souffert, après des années à être trimballée par sa mère à chercher un mari, après les échecs successifs de ses liaisons avec Klaus, puis Lev, elle voulait être chérie et vivre en paix. « Oui !» s'écria-t-elle en relevant Macaire pour se jeter contre lui. « Oui !» À quelques pas de là, dissimulé derrière l'angle d'un mur, Tarnogol observait la scène. Sous son masque, Lev pleurait. 15 ans après les faits, dans la chambre 623 du palace de Verbier, Anastasia comprit soudain. Elle dit à Lev, « La bague que Macaire m'a offerte était la bague que tu me destinais ?»« Oui, c'était celle de ma mère. » Elle se cacha la bouche avec les mains dans un geste désespéré. « Je l'ai rendue à Macaire tout à l'heure. »« Ce n'est pas grave, » assura Lev. Anastasia ne put retenir ses larmes tandis que Jean-Bénédict Hansen restait stupéfait du récit qu'il venait d'entendre. « Macaire a tenu sa promesse, » reprit Lev. « Ce même soir, il me remettait le contrat et les actions. » Un mois plus tard, Tarnogol faisait ses premiers pas en tant que membre du conseil de la banque, tandis que moi, Lev Levovitch, j'étais propulsé banquier par Abel Ebesner, qui ne s'est jamais douté de rien. Il faut dire que Tarnogol était soi-disant souvent en voyage, et moi, souvent en rendez-vous avec des clients, que ce soit dans un salon de la banque à Genève ou à l'étranger. Il n'était pas difficile de jongler avec les deux agendas. Nous n'avions pratiquement pas l'occasion de nous croiser. L'argent des dividendes a fait le reste pour créer le personnage. Il m'a suffi de graisser la patte d'un employé du service de la population pour obtenir, sur la base d'un faux passeport d'une république soviétique que mon père avait fait fabriquer, un vrai permis de séjour pour Tarnogol, qui s'est installé définitivement à Genève. Il a pris pour domicile un hôtel particulier du 10 rue Saint-Léger, d'abord loué, et que j'allais pouvoir acheter ensuite. Ce n'était qu'un décor de carton-pâte. Seule l'entrée, les escaliers et les salons du premier étage, visibles depuis la rue, étaient meublés. Le reste a toujours été vide et inoccupé. Jean-Bénédicte se leva et fit quelques pas dans la suite.
« C'est époustouflant, Lev. Tu es un génie absolu. Tu t'en rends compte? Tu nous as tous bernés. Il y a une semaine encore, tu terrifiais ce pauvre Macaire en destinant la présidence de la banque à Lev Levovitch. C'était brillant. Une fois que tu aurais été élu président, il aurait suffi que Tarnogol démissionne du conseil et personne n'aurait jamais rien su. Et toi, tu étais président de la banque Ebesner, le premier dirigeant de cette banque à ne pas être un Ebesner. »
Pas du tout, le contredit Lev. Je voulais pousser Macaire dans ses retranchements pour le convaincre de faire l'échange inverse. La présidence en échange d'Anastasia. J'avais enfin retrouvé Anastasia après 15 années qui furent la traversée d'un désert. Je voulais que Macaire nous laisse tranquille. Si elle le quittait, il lui aurait fait des scènes, du chantage au suicide. Il aurait été capable de tout gâcher. Jean-Bénédicte toisa Lev.
Macaire a failli te tuer.
Je le sais. Jean-Bénédicte éclata de rire.
Cette histoire est démentielle! Enfin, le plus important, c'est que j'ai désormais les actions de Tarnogol que Macaire m'a gentiment cédées. Quant à toi, Lev, ou devrais-je dire Tarnogol, tu m'as remis ta lettre de démission tout à l'heure. Je suis enchanté de savoir que tu comptes débarrasser le plancher. Macaire, lui, va également quitter la banque, me nommer président à sa place et me transmettre les actions d'Abel. Au décès de mon père, j'aurai la totalité du capital action de la banque. Je serai le banquier le plus puissant de Suisse. Alors voilà comment ça va se passer, Lev. Tu vas rejouer ton numéro de Tarnogol encore une fois demain. Nous allons convoquer une conférence de presse avec Tarnogol, Macaire, mon père et moi. Nous allons annoncer que Macaire est élu président, mais Macaire va démissionner dans la foulée et me transmettre ses actions. Et toi, juste derrière, tu annonceras que tu t'en vas aussi. Si les journalistes posent des questions et demandent pourquoi, invente une histoire. Ensuite, je te laisse partir, Lev, et je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Je te fiche la paix, je te laisse vivre ta vie quelque part sur la terre avec Anastasia. C'est ce que tu veux, non ?
Marché conclu, dit Lev. C'est tout ce que je demande. » Jean-Bénédicte quitta la chambre 623 pour retourner dans la sienne.
« Et maintenant ?»
murmura Anastasia à Lev lorsqu'ils furent seuls dans la pièce.
« Maintenant, il faut partir. Ne plus jamais revenir. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. »
À 3 heures du matin cette nuit-là, soit peu avant l'arrivée des premiers employés du palace, deux ombres quittèrent la suite 624, occupées par Lev. Sans un bruit, elles se glissèrent dans les escaliers, leurs pas étouffés par les épaisses moquettes. Elles descendirent jusqu'au rez-de-chaussée et suivirent un couloir de service au bout duquel était une sortie de secours. Lev poussa la porte. Dehors, il neigeait abondamment et un courant glacial s'engouffra dans le bâtiment. À l'extérieur, une petite route enneigée. Alfred était là, les attendant dans le froid. Derrière lui, une grosse berline noire au moteur allumé. Lev, retenant la porte, voulut laisser sortir Anastasia, mais celle-ci lui dit « Attends-moi ici, je dois remonter. »«
Quoi ?
Je dois faire quelque chose, c'est important. »« Anastasia, non, il faut s'en aller avant que quelqu'un nous surprenne. »«
Lev, je t'en supplie, c'est important. »
Il soupira.
« Dépêche-toi alors. »
Elle retourna à l'intérieur. Lev laissa la porte se refermer et resta à l'extérieur avec Alfred. Dehors, personne ne risquait de les voir. Ils attendirent un long moment. Leurs cheveux étaient couverts de neige, ils grelottaient, le cou rentré dans leur manteau. Puis la porte s'ouvrit de nouveau et Anastasia apparut. Lev retint le battant pour qu'il ne se referme pas.
« Enfin, où étais-tu »
s'agaça-t-il. Elle le dévisagea un instant avant de répondre.
« Il fallait que je le fasse. »«
En route !»
se permit de suggérer Alfred en ouvrant la portière arrière de la voiture.
« Il faut pas traîner !»
Anastasia s'engouffra dans le véhicule avant de se retourner et de constater que Lev n'avait pas bougé, tenant toujours la porte ouverte. « Alfred, dit-il, vous savez ce que vous avez à faire. » Le chauffeur opina du chef.
« Tu ne viens pas avec moi ?»
demanda Anastasia d'un ton inquiet. « Je dois rester ici, » expliqua Lev.
« Non, Lev, supplia-t-elle, ne reste pas ici, tu vas avoir de graves ennuis.
Je ne laisserai pas la banque tomber entre les mains de Jean-Bénédicte Hansen. Je dois bien ça à Belle et Besner. » Malgré les protestations d'Anastasia, il retourna à l'intérieur du palace, refermant derrière lui la porte. La voiture démarra avec Anastasia à son bord et quitta, dans le secret de la nuit, le palace, puis Verbier, et redescendit dans la vallée jusqu'à l'aéroport de Sion, où elle pénétra directement sur la piste. Un jet privé attendait, prêt au décollage. Quelques instants plus tard, l'appareil s'envolait avec Anastasia à son bord, en direction de Corfou.